Voilà, je vais donc commencer l'enseignement de ce soir en lisant un sutra qui me touche particulièrement. Donc c'est quelque part une offrande du Bouddha à vous tous et toutes. C'est un sutra du Sutta Nipata. Donc ce texte qui, il est dit, est pour être bien la partie la plus ancienne de tout le canon Pali. Donc ce texte vient de l'Atthakavavaga, et puis c'est donc ici, ce qui est très touchant, c'est qu'il est composé essentiellement de vers, mais c'est quelque part le Bouddha lui-même, l'aspirant Bouddha, qui parle à ses disciples. C'est-à-dire que quelque part c'est très intime en fait, ce qui nous révèle. Il dit « La peur vient de s'être blessé soi-même. Il suffit de voir combien de personnes combattent. Je te parlerai de la peur terrible qui m'a fait trembler de partout, en voyant des créatures s'effondrer tout autour comme des poissons dans une eau trop peu profonde. Si agressifs les uns envers les autres. En voyant cela, j'ai pris peur. Ce monde manque complètement d'essence. Il tremble dans toutes les directions. Je souhaitais me trouver une place, indemne, mais je n'en voyais pas. En voyant les gens enfermés dans des conflits, je suis devenue totalement désespérée. Mais c'est alors que j'aperçus une épine, difficile à distinguer, logé profondément dans le cœur. C'est seulement lorsque l'on est piqué par cette épine que l'on court dans tous les sens. Ainsi, si cette épine est retirée, on ne court plus et on se pose. Celui qui est allé au-delà de ses désirs, de son attachement au monde, si difficile à dépasser, celui-ci n'a pas de peine. Il ou elle ne pleure pas. Son flux est coupé. Il est complètement libre. Ce qui s'est passé avant, laisse-le aller. Tout ce qui va advenir n'en est cure. Et ne t'attache pas non plus à ce qu'il y a entre les deux. Et tu avanceras complètement en paix. Celui pour qui il n'y a pas de construction de soi, ni dans tout son corps, ni dans tout son esprit, et qui ne regrette pas ce qui n'est pas, celui-là est dans le monde invaincu. Celui pour qui il n'y a pas de « ceci est à moi », ni de « cela est à eux », ne trouvant même pas l'absence de soi, celui-là n'est pas triste de n'avoir rien. Ça, c'est extraordinaire. Hein? Donc là, il y a vraiment une magnifique description de l'absence de la saisie d'un moi. Lié au corps, lié à l'esprit, lié au bien, aux acquisitions, lié à l'autre, aux autres. Je trouve qu'on peut que difficilement s'empêcher d'être entraîné dans cette tourmente émotionnelle du début du sutra. Et combien elle est parlante aujourd'hui, mon Dieu, mais c'est juste incroyable, vous rendez compte, c'est juste tellement, tellement d'années plus tard, et puis voilà, on est ici. Donc cette tension qui monte, alors que la peur et le désespoir augmentent, et puis soudain une intuition, soudain un éclair de lucidité. Ça pourrait être nous, hein? Un éclair de lucidité qui vient. C'est comme si c'était un animal conduit à la folie par une blessure immense, celle du moi. Et quelque part, ça implique une telle tendresse, je trouve, une telle disposition d'humanité pour nous faire relater le fait que l'humain, par nature, n'est pas forcément mauvais, il est simplement perdu, désorienté. Il a perdu le sens de son orientation. Il n'a plus de sol, Et donc c'est dans ces cas-là qu'on est conduit vers la violence, sous la pression, on peut dire, quelque part incessante de la saisie, basée dans un attachement à un moi. Donc dans la deuxième moitié de ce poème, il y a naturellement cette description qui fait qu'on va pouvoir cultiver un état d'esprit qui peut se poser à l'intérieur d'une expérience en cours. C'est exactement la proposition de notre pratique ici et maintenant, à chaque instant. Donc ça nous évite de nous perdre et de nous projeter dans les situations diverses et variées, ni au passé, ni à l'avenir, et même pas s'attacher à ce qui se présente ici et maintenant. Donc ces quelques vers-là vraiment embrassent la totalité, si vous voulez, des quatre nobles vérités. Il y a vraiment tout l'enseignement des quatre nobles vérités qui est décrit ici. La souffrance manifestée par de la violence, de l'agressivité. Et puis, il y a quelque part, elle est causée par quoi ? Eh bien, l'épine. Qu'est-ce que c'est que l'épine ? L'épine dans le cœur, c'est l'attachement, hein, c'est quelque part l'aversion, c'est la confusion. Et puis, lorsqu'elle a traversé de cette expérience, eh bien, il y a naturellement la troisième noble vérité, qui est la liberté. Il est libre, elle est libre. Et puis ensuite, le moyen de cultiver cette absence d'un attachement à un soi qui constitue notre objectif, le but, l'absence de saisie, qu'on peut nommer aussi liberté. Vraiment une magnifique description de notre situation de vie en tant qu'humain, et puis aussi la capacité de pouvoir aller au-delà de notre confusion. Donc cet enseignement du Bouddha, c'est une voie qui permet vraiment de transformer l'esprit, dans le sens d'y voir clair, non pas par l'évitement, mais c'est une dimension de pouvoir être quelque part au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre situation. Là, il y a une telle proximité pour pouvoir être au clair avec ce qui se passe en pratiquant. Et ce bonheur qu'on éprouve, quel qu'il soit, il provient de notre propre esprit. La paix provient de notre propre esprit. C'est aussi de notre propre esprit que, naturellement, est issue la souffrance. Donc ceci, on commence à le comprendre, à l'intégrer, à le voir plus précisément. Ce qui signifie qu'il convient de reconnaître ces états mentaux douloureux. Non pas de les éviter ou de s'en débarrasser, mais de le reconnaître pour ce qu'ils sont. Donc la violence, toutes les formes de jalousie, d'envie, toutes les obsessions, on peut dire. Et puis il y en a une là, dont je vais parler ce soir, qui est manifeste et qui est très présente dans l'enseignement. Ceci est la vanité, ou ce qu'on peut appeler l'orgueil. Donc vous savez bien que la méditation apprend à voir les choses comme elles sont. Et très souvent, c'est sous une autre optique que celle qu'on connaît habituellement. Donc généralement, on comprend les choses de façon un petit peu déformée. Et donc l'esprit doit appréhender la réalité de la manière à pouvoir voir quelle est la cause de la souffrance. Et donc il y a bien des manières de parler de l'enseignement du Bouddha et quelque part ça revient toujours à la même chose dans le sens de la saisie, l'absence de saisie, la souffrance, l'absence de souffrance et le cheminement. Et on peut prendre naturellement plusieurs types d'exemples, plusieurs cheminements. Hier soir on a eu un magnifique enseignement lié aux trois caractéristiques. Et cet enseignement découle bien sûr de ce soir, découle bien sûr de cet autre enseignement qu'on a reçu. Comment se construit le moi ? Quelle est quelque part l'origine du moi ? Car ça a bien été dit, c'est une construction, c'est un concept. Quelque part, c'est une valeur ajoutée. C'est évident que c'est une valeur ajoutée et qu'il s'agit de comprendre. Donc il y a trois sources pour l'origine du moi. Trois sources. Une, c'est la confusion, et c'est ce qui a été exprimé justement hier soir, qui est de prendre les expériences pour le moi. Le corps, pour le moi, les émotions, les pensées, les sensations affectives, on prend tout ça comme étant à moi ou pour moi, et puis naturellement c'est une confusion. Donc ça c'est ce dont a parlé Sandrine hier soir. Le deuxième type, si vous voulez, ou source à l'origine du moi, c'est justement l'orgueil. Cette dimension de se percevoir comme moi, non pas comme l'appropriation, mais la manière de se positionner par rapport à d'autres personnes. Donc cet orgueil, il peut avoir trait à moi-même, mais il peut aussi avoir naturellement une disposition, une dimension par rapport à d'autres êtres. Donc confusion et orgueil sont les deux qu'on va éliminer progressivement. La troisième source, si vous voulez, l'origine du moi, c'est la convention. Conventionnellement, c'est tout à fait clair et juste et important de dire « je ». Même le Bouddha lui-même, il disait, quand il parlait de lui-même, « je ». « Je vous dis, disciple hein ». Donc, il n'était pas là en train de faire plein de déformations. Il utilisait le « je » sans aucun problème. Et puis, ça a gardé tout son sens. Donc ça, c'est un sens à garder pour savoir exactement où on est, qui on est, et puis avoir conventionnellement une compréhension pour qu'on puisse se comprendre. Donc ce soir, cette dimension qui est liée, et cet aspect qui est lié à l'orgueil. Ce sentiment du moi, il est avec nous très longtemps. Mais très longtemps. Il est dit, il y a quatre phases pour atteindre l'éveil, si on veut vraiment garder. Il y a des étapes, et puis peut-être qu'un jour, pas dans cette retraite, mais un jour on donnera peut-être les étapes. Mais figurez-vous que ce sentiment du moi, voilà, tombe au moment où on atteint le plein éveil. Ça veut dire la quatrième étape. D'accord ? Donc, si vous l'avez encore un petit peu, hein, ou même beaucoup, eh bien, ceci est normal. D'accord ? Et en plus, c'est très important justement de le comprendre et de le voir à l'œuvre plutôt que de se dire « Ah ben voilà, ce soir c'est génial, Patricia va m'aider à savoir comment je vais m'en débarrasser. » Eh bien, il ne s'agit pas du tout de se débarrasser de ceci puisqu'il n'existe pas en premier lieu. D'accord ? C'est une construction. Ce dont on va vraiment se débarrasser, c'est justement la confusion à son propos. C'est-à-dire comment il se construit, comment il s'infile, comment il se manifeste. Et le fréquenter est la meilleure des manières. De la même manière qu'on se frotte peut-être à des pensées qui sont un petit peu douloureuses, hein, de la tristesse, un peu de peur. Hein. Et comment ce sentiment du moi, tiens, voilà, comment il apparaît. Et je trouve ça tellement fascinant que quelque part, vous pouvez vous promener avec ce qu'on appelle en pali « mana ». Le mot pour l'orgueil, c'est « mana ». Donc, c'est naturellement ici un sentiment d'arrogance et un sentiment de vanité. Ça n'a rien à voir avec la fierté d'avoir accompli quelque chose de manière judicieuse. La fierté, c'est un sentiment tout à fait positif et ça existe dans l'enseignement. Et donc, on peut être très fier, par exemple, hein, d'avoir pratiquement fini un mois de retraite ici. Voilà. Donc, il y a là, dans l'orgueil ou dans l'arrogance, il y a un sentiment d'excès. Donc, il y a quelque chose qui fait que c'est un excès, et je vais l'expliquer. Hein. Donc, dans notre langage habituel, et surtout avec nos racines, l'orgueil, superbia en latin, c'est généralement avoir une opinion très avantageuse de soi-même. D'accord ? C'est souvent une opinion exagérée de soi-même. On a une valeur personnelle et quelque part, on est supérieur aux autres. Donc on a une considération un peu supérieure par rapport à autrui. À la différence de la fierté qui n'a nul besoin, quelque part, de se mesurer à autrui et d'être constamment dans l'évaluation de savoir si on est à la hauteur, ni dans le besoin de rabaisser les autres. Ça, ce sont vraiment les deux dimensions qui sont très fréquentes. Donc, on peut ici déjà avoir un discernement. Et le discernement, c'est quelque chose de très, très important. C'est justement d'avoir la clarté, la lucidité, de dire tiens, ah ben oui, ben je suis très content, je peux être très fier de ce que j'ai fait comme coupe de légumes ce matin, par exemple. Et puis, ou bien le ramassage des feuilles, hein, alors là, vraiment, bravo, hein, parce qu'il y en a, je ne sais pas si je me mesure à combien il y a de feuilles dans ce parc et combien j'en ai enlevé. Mais donc là, il y a un sentiment de contentement qui s'ensuit, d'accord ? C'est de l'aise, c'est naturellement une certaine joie et il n'y a absolument pas ce figement de saisie quand on ressent ça. Et il n'y a pas non plus, quelque part, une absence de modestie. Quand il y a de l'orgueil, il y a une absence de modestie. C'est-à-dire qu'il y a là une affliction mentale, comme on les appelle, qu'il s'agit de reconnaître, parce qu'il y a, quelque part, une fragilité. Une fragilité au niveau, justement, de ce sentiment de « je » ou de « moi », qui peut d'un côté se sentir menacé ou d'un autre côté vouloir se défendre. Donc ces tourments de l'esprit, eh bien à ce moment-là, quand c'est de l'orgueil, ils nous agitent et ils renforcent ce sentiment de devoir être fragmenté. Fragmentation intérieure, c'est-à-dire que je vais renforcer ce que moi j'imagine être mon côté impeccable, hein. Et puis, je vais naturellement, complètement éviter, voire même avoir le déni de mon côté que moi j'estime qui n'est pas valide à avoir déjà par rapport à moi. Et, mes faiblesses, mes manques, voilà, tout ce que j'ai tendance à cacher, que je ne veux pas m'avouer à moi-même, déjà en premier lieu, c'est très souvent le cas, hein. Mais ici, après un certain temps, puis avec une certaine profondeur, on commence à pouvoir voir la totalité de ce qui nous compose. Et c'est absolument génial parce qu'on commence à vraiment être un tout petit peu plus authentique, voire plus sincère par rapport à ce qui se passe, ce qui nous constitue, mais dans le sens de nos histoires de vie. Hein. Et donc, d'être moins dans cette division de devoir séparer et puis renforcer ce côté fort et puis rabaisser le côté qu'on estime, parce que c'est une évaluation, voire une déformation, qu'on estime nous-mêmes, bon, soit pas intéressant, absolument pas intelligent, enfin voilà, tout ce qu'on voit, qu'on perçoit. Donc, nous allons naturellement avoir cette disposition qui fait qu'on va ouvrir le champ de cette exploration pour intégrer le tout. Ce qui implique ma fierté, ce qui peut impliquer mon contentement, ma satisfaction par rapport à moi, mais qui peut aussi impliquer et inclure naturellement quand il y a des moments où ce moi, ce je, eh bien, il est quelque part en saisie et qu'il y a une manifestation d'orgueil. Donc, comme a dit un grand philosophe, je ne le cite pas parce que je ne sais plus son nom. Donc voilà, c'est un peu... C'est difficile, donc voilà. Mais il a dit, vaste domaine s'il en a, tout le monde a de l'orgueil, mais tout le monde ne choisit pas de travailler dessus. Eh bien, ici, l'invitation, c'est de travailler dessus. Donc, le terme, dans un certain sens, c'est que quelque part, il y a littéralement, en pali, c'est quelque part, on fait quelque chose. Il y a l'agent « je » et « je le nourris ». Ce terme s'appelle « ahamkara ». Et traduit en français, c'est quelque part « l'ego-faction », c'est-à-dire le faiseur ou la faiseuse, l'agent qui fait le « moi », qui construit le « moi ». Vous le comprenez, ça ? Et donc, c'est un concept qui fait qu'il y a une construction et puis, il est en action. C'est-à-dire, c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est que ce n'est pas un état particulier, c'est que quelque part, il se manifeste et il y a un processus d'ahamkara, c'est-à-dire d'égofaction. Je le fais, je le refais, je le refais, je le refais. Puis du coup, ben, voilà, ça devient quelque part ma structure avec laquelle j'habite. Donc il y a un processus là qui est à l'œuvre et qu'on va naturellement pouvoir percevoir à travers les différents modes. Alors ce sentiment du moi, il n'est pas un problème en soi. On a chacun des caractéristiques. Et puis moi, je sais très bien, par exemple, que j'ai des caractéristiques qui font que je suis une petite personne de taille. Et ben voilà, c'est des caractéristiques comme ceci. Et puis, il n'y a aucun problème avec ça. Hein. Bien, si je choisis naturellement, il y a des caractéristiques qui font que je vais choisir une situation plutôt qu'une autre. Et ben voilà, c'est normal. Et j'ai du discernement à ce moment-là. C'est pas, oh mon Dieu, quelle horreur, il y a le moi qui est en train de s'attacher à choisir peut-être le kiwi qui est mûr plutôt que le kiwi qui n'est pas mûr. On est d'accord. Donc là, il y a du discernement. Donc, c'est une rigidification du sentiment du moi. C'est la rigidification. C'est ça, c'est la saisie, la cristallisation dont on parle. Donc là, il y a une exagération. Il y a vraiment un excès qui fait que à ce moment-là, c'est une source de souffrance. Il y a une jolie petite histoire qui raconte qu'un vieux rabbin, il est sur le point de mourir et puis il a l'été, donc il reçoit tous ses disciples qui vont faire, je pense, louer les qualités de leur maître. Alors il loue sa sagesse, sa patience, hein, j'ai parlé il n'y a pas longtemps de la patience, sa générosité. Et puis sa femme voit que son mari, le rabbin, il est de plus en plus agité. Puis il lui dit... Ah, mais Shlomé, mais regarde-moi tous ces disciples, toutes les louanges que tu as reçues. Et puis, elle lui dit, mais pourquoi tu es si agitée? Tu as vu toutes les louanges? Et puis le rabbin dit, personne n'a mentionné mon humilité. Donc vous voyez que... Voilà. Donc il en avait plein de qualités, hein, mais voilà, il manquait un tout petit peu d'humilité. Donc, vous savez, avec ça, franchement, c'est le moment de dire qu'il faut avoir beaucoup d'humour par rapport à soi. Voyez, parce que si on se prend trop au sérieux par rapport au sentiment d'orgueil, eh ben on est mal barré. Parce qu'on va encore souffrir plus de le voir. Parce que quand on se dit, ben, regardez ce qu'il y a là, alors on le voit partout. Hein, voilà. Ouh là, il manifeste là, il est là, il est là, vouloir quelque part le percevoir. Donc c'est très important de pouvoir étudier les choses dans un état d'esprit qui est léger. Et surtout ça. Donc, voilà pourquoi la petite histoire. Donc, étudier mana dans notre perspective de méditant et méditante, ça revient dans notre, quelque part, expérience directe, si vous voulez, c'est de percevoir très, de façon assez évidente, et c'est dit comme ceci, percevoir l'esprit de comparaison. Mana va comparer. D'accord ? Quand mana est présent, il y a un esprit de comparaison. C'est-à-dire, le premier, ben, c'est être meilleur que. Le deuxième, être moins bon que. Et le troisième, qui est très intéressant, je trouve, c'est être égal à. Et pourquoi être égal à ? Parce qu'il y a naturellement là, encore, même si on est pareil, toi et moi, on est pareil. Ben, il y a quand même encore, hein, quelque part, une évaluation, on mesure, vous voyez ? C'est un peu plus neutre, hein, il n'y a pas de doute, ça fait beaucoup moins mal que quand on est dans un orgueil de supériorité, voire d'infériorité. Donc, qu'est-ce qu'on va comparer ? Ben, on peut tout comparer. On peut comparer son apparence, on peut comparer son attrait, on peut comparer son intelligence, on peut comparer ce qu'on vaut, on peut comparer ses qualités de cœur, on peut comparer plein de choses. Les gains, les richesses, l'intelligence. Et il est dit aussi qu'on peut comparer le cheminement spirituel, qu'il peut y avoir beaucoup de de souffrance qui peut provenir de l'ambition, et ça c'est naturellement dans le sentiment du moi, qui fait qu'on va comparer soi-même, son évolution, sa progression quelque part sur le chemin, à celle de quelqu'un d'autre. Donc la comparaison, à nouveau, quand on compare et que c'est une réalité dans le sens des faits, hein, je veux dire, comme, voilà, on compare, je ne sais pas moi, deux habits, voilà, je vais prendre celui qui me convient, celui qui me va, puis pas celui qui ne me va pas. Donc il faut vraiment, vraiment voir que là, il y a un sentiment du moi qui fait qu'on va avoir très clairement une manière de sentir qu'il y a quelque chose qui est déformé, qui ne joue pas, qu'il y a de la confusion. Donc naturellement, là, il y a des exemples qui sont extraordinaires. Je veux dire, on est dans une pièce, par exemple, et puis entre quelqu'un, ça est arrivé il n'y a pas très longtemps, dans une, soi-disant, un meeting. Voilà. Des fois, on a des meetings. Et puis, voilà, j'étais dans la pièce, et puis il y a des personnes, et puis quelqu'un est arrivé en disant « Ah, mais c'est génial aujourd'hui, vraiment, je me sens la plus fantastique !» Puis cette personne est vraiment arrivée avec ça. Et puis, je lui dis, ça doit être un sentiment agréable de sentir ça. Et puis, il dit, oui, non, mais figure-toi que quelque part, je pensais avoir la meilleure idée, mais il y a quelqu'un qui est arrivé après moi, et puis qui n'est pas arrivé à l'heure, donc elle est arrivée après moi. Et puis, en fait, elle a eu une bien meilleure idée que moi. Donc, elle a eu une idée encore plus fantastique que la mienne. Et bien, ce n'était pas du tout agréable. Et donc, vous voyez combien c'est tellement extraordinaire de voir l'impermanence de ce sentiment. Je suis fantastique, et puis ouf, quelqu'un a une idée toute simple, vraiment, qui vient avec, et puis, oh, tac, voilà, il s'est passé quoi avec mon sentiment de moi, hein? Une fois, je suis la meilleure, je suis bonne, je suis super, et puis pouf, ça tombe, et puis du coup, vous voyez combien c'est fragile ça? Vous le sentez? Combien c'est fragile cette dimension-là, le moi qui peut se sentir menacé à tout moment, cet état fragile provient du fait que quelque part, c'est l'impermanence qui rend ceci. C'est donc cette impermanence qui fait que ce n'est pas solide ce moi, comme on l'a dit. Donc, il va naturellement être ici dans une position soit de force suivant ce qui se passe, suivant les conditions, soit de fragilité suivant ce qui se passe. Donc plus ceci se répète, plus on a besoin, quelque part, de se rendre compte, si on s'appuie là-dessus, de se rendre compte qu'on a besoin d'être sur la défensive d'une part, et puis vigilant pour ne pas être, quelque part, en position de faiblesse. C'est ça qui se passe. Donc ça s'active de cette manière-là. Et plus ça va s'activer suivant les situations de blessures, suivant les situations difficile, et bien plus on va avoir comme repère, plutôt que notre être, l'être tout simplement qui vit, qui respire, qui marche, qui mange, qui digère, plus on va avoir cette structure comme un autre axe qui va naturellement faire qu'on a un cloisonnement et qu'on fait un figement. Donc, dans cette situation-là, il va y avoir comme un axe à côté de notre axe d'être, alignement, qui fait que c'est ça le repère. Et on met ça comme point de repère par rapport à se regarder, qui fait qu'on a une distance par rapport à ce qu'on ressent, et qu'on met une structure qui est là, et qui fait que je vais, à ce moment-là, me blinder, me carapacer, et puis décider que je vais cacher mon côté que je trouve fragile, et puis naturellement uniquement montrer l'aspect fort, et c'est ça l'orgueil. Donc ça fait que là, on se base non pas sur l'être qu'on est, avec toutes ces fluctuations et autres, mais on crée un ego. Et c'est ça l'ego-faction. C'est la meilleure des manières de pouvoir décrire comment on fait un ego, comment on le bâtit, comment on le construit. Et ça, on le fait, mais c'est absolument extraordinaire combien on peut ensuite mettre en place des stratégies pour soit attirer le regard des gens, soit au contraire éviter, combien on peut être séducteur ou séductrice, combien on peut naturellement exagérer un petit peu un récit pour se rendre intéressant, faire son intéressant, hein, comme on dit. C'est génial. Ah oui, elle fait son intéressante là. Et puis y a toutes ces manières de pouvoir montrer quelque part quelque chose qui va être attrayant ou au contraire, on va se cacher. Donc là, il y a une dimension soit de supériorité, soit on n'a surtout pas envie d'être vu, d'être reconnu. On est transparent dans une salle, invisible. Hein. Il y a des gens, ils sont invisibles, tout simplement. Voilà. Parce qu'on se met dans une situation là qui, quelque part, fait qu'on est dans une situation d'évitement. Et ça, c'est, quelque part, l'exemple de l'orgueil d'infériorité. Donc d'un côté, l'orgueil de supériorité, on séduit, on se rend intéressant, du coup, dans une pièce, on ne voit plus que cette personne, hein, souvent. Et puis, il y en a d'autres qu'on ne voit pas du tout, parce que tout à coup, ben, voilà, ça c'est des gens qui ont de la difficulté à prendre leur place, à s'exprimer, à dire les choses, à pouvoir naturellement se manifester. Donc cet état de comparaison, il s'exprime vraiment de différentes manières. On peut même aussi placer les autres. Soi-même, on place les autres comme supérieurs. Donc on donne aux autres un certain pouvoir. Et c'est intéressant parce que ça, je l'ai fait en tant que petite fille. J'ai énormément fait ça, en fait. C'est incroyable. C'est, j'ai vu en tant que méditante, bien plus tard, que j'ai fait ça. Me cacher pour que eux se sentent le meilleur et du coup j'ai pu être acceptée de cette manière-là. Si j'avais, comme je l'ai dit, hein, je sais plus, peut-être c'est pas ce groupe, mais que j'avais été une enfant très colérique, que j'avais pas pu exprimer la colère que je ressentais, donc quelque part on est comme un caméléon, hein. Voilà, on va naturellement trouver la stratégie pour faire que l'autre se sente bien et du coup être accepté, mais être accepté non pas parce que je me laisse être, mais au contraire, je me cache. C'est une stratégie. Ça leur donne un sentiment agréable et ça donne surtout un sentiment de puissance aux autres. Donc à ce moment-là, ben, j'agite rien du coup, hein. Je suis sage. Une enfant sage. Donc c'est intéressant de le voir faire son jeu. Et je crois que suivant les situations, ben, on va avoir différentes manières de le voir, cet orgueil, de voir ce mana à l'œuvre. Et que par moment, ben, ça va être un besoin d'être compétitif ou de se mesurer à plus fort que soi ou plus faible que soi. Et vraiment, pour toutes les situations, c'est basé dans la croyance en un moi qui a quelque part une réalité alors qu'elle n'en a pas. C'est vraiment ça le point. Le moi fixe, figé, cristallisé n'existe pas. Donc il n'y a ni besoin de le protéger, ni besoin de le défendre, parce que c'est exactement cette façon, cette saisie qui fait que on est à ce moment-là très vulnérable. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh ben, il y a le discernement, il y a y voir clair, il y a rester centré. Et à ce moment-là, on est surtout beaucoup moins dans cette dimension d'être, comment on va dire, lourd. C'est moins pesant la vie. Alors, une des façons, en tout cas, qu'on peut dire qui est le plus simple de voir, c'est comment on a des pensées. Et c'est une des expressions les plus courantes. C'est que cet orgueil se manifeste intérieurement sur la forme du juge. Le juge intérieur. Vous avez des fois un juge intérieur? Ou une juge intérieure? C'est extraordinaire. Et puis là, franchement, on est tellement dans le silence que forcément vous avez du silence. Donc vous voyez encore plus clairement toutes ces façon d'avoir des pensées critiques lorsqu'elles nous font croire que le monde entier se dresse contre nous, hein. Ils sont tous contre moi. Je trouve ça fascinant, quoi. C'est juste chaque perception, chaque rencontre par moment, c'est waouh, le monde existe à travers un regard qui forcément provient du mien, mais qui devient source de tourment. Ou moi-même, je suis aversif et je ne peux plus supporter personne ici. Vous avez eu des moments comme ça? Hein? Ah, c'est des amis, soit du. Ah, non, non, en ce moment, je ne veux plus. Je suis toute seule dans mon coin. Donc, c'est extraordinaire ces pensées qui se dressent en adversaire, hein, et qui vont porter forcément ces jugements sur les autres. Voilà, donc là, c'est génial. Si nous voulons approfondir un petit peu notre sagesse et puis notre compassion, bien, cette façon de penser, si on ne la voit pas, eh bien, elle nous limite, elle nous enferme. En fait, elle nous ôte nos capacités. Et si on ne les voit pas pendant très très longtemps, parce qu'elles sont à l'œuvre aussi dans notre quotidien, eh bien, elles nous minent. Elles nous minent dans le sens de vraiment nous miner. Donc, il y a tout un registre de pensées qu'on peut repérer qui vont nous aider à y voir clair. Ces messages qu'on a entendus, petits, reçus, enfants, très souvent, ils viennent. Je vaux rien. Je suis pas assez bien. Ça, c'est des messages, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, qui ont été appris. Et du coup, ben, on ne peut pas s'aimer. C'est difficile de s'aimer quand on a entendu ça. Et ça peut être un jour, une phrase, un mot, et tout à coup, ça nous a tellement frappé, transpercé le cœur que oh, c'est resté là, ce mot, cette phrase, cette pensée. Et puis bien sûr, quand on est enfant, on prend ça pour la réalité. C'est une vérité, donc enfant. Donc on est vulnérable, donc c'est évident que face à ces mots, on n'a pas beaucoup de possibilités. Autre que de les prendre comme la vérité. Puis ensuite, eh bien, on va avoir cette dimension de vivre avec et un jour on peut questionner. J'espère que pour vous, ce jour est arrivé. Questionner vraiment la réalité de ceci. Waouh! De dire, tiens, mais en fait, c'est pas une vérité, c'est une croyance, c'est quelque chose qui vient. Voilà, oh là là! Combien c'est important ces pensées solidifiées. Si je ressens que je ne suis pas adéquat, questionnez-vous. Vraiment, questionnez-vous. Et c'est exactement là qu'il ne s'agit pas de zapper et puis dire, ah oui, les pensées sont des pensées comme les nuages qui traversent dans le ciel. Non! Non, c'est vraiment important, c'est vrai, on entend ça et on se dit, ah ouais, les pensées, ben voilà, vous vous intéressez pas au contenu parce que, voilà, de toute façon, on se perd dans les contenus. Non, là, il y a un message. Et c'est tellement important de se donner justement la patience, le temps de la pause pour entendre. Cette écoute active qui dit, mais qu'est-ce qui a été dit là? Et de s'intéresser justement au contenu de cette phrase, ou une que moi j'ai entendue mais X fois, je n'ai pas le droit de. Je n'ai pas le droit à moi-même. Mais parce pourquoi? Parce que voilà, j'ai grandi avec, t'as pas le droit de faire ça. Et ça, c'est vraiment tellement important de pouvoir non pas nous cacher, nous leurrer et être dans le déni de ça, c'est immensément libérateur que de pouvoir écouter ça d'un espace de tranquillité, d'accueil, d'ouverture, de bienveillance, de gentillesse. Et puis, waouh, qu'est-ce qu'il y a là? Et puis, libérer. On n'a pas besoin de se nourrir de ces pensées critiques qui sont des messages reçus. J'aime bien hein, une de mes enseignantes qui dit, tout ça, c'était appris, donc tu peux tout désapprendre. Du genre, voilà, il n'y a pas vraiment de réalité à ça, ce sont des croyances. Donc on commence à reconnaître ces messages, en tenir compte, il faut les voir, il faut les voir. Donc là, les contenus, ils sont intéressants. Et vraiment aussi explorer ce qu'il y a sous ces contenus, dans le sens des émotions. Donc si on ne les entend pas, ben, ils vont simplement se renforcer et se perpétuer. Et de la même manière, c'est aussi quelques mots, je vais dire, sur juger les autres. Donc se juger soi-même, je viens d'en parler, mais aussi juger les autres. Quelque part, lorsqu'on juge les autres, et souvent on juge les autres de manière négative, hein, enfin, c'est comme ça qu'on dit juger les autres, hein, eh bien, il y a là, en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir, il y a un sentiment de supériorité qui fait que lorsqu'on les juge négativement, eh bien, on peut soit se sentir différent, c'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas de similitude entre soi et l'autre. Ou alors on se sent supérieur, c'est-à-dire que quand on juge les autres de manière négative, eh bien, on n'a pas quelque part besoin de s'examiner soi-même. Pourquoi on n'a pas besoin de s'examiner soi-même? Parce que dire, au moins je ne suis pas comme eux. Au moins je ne suis pas comme eux. Donc ça veut dire que quelque part, je m'estime dans une position. Ou si c'est un jugement négatif, eh bien j'ai quelque part mis, si vous voulez, mis la faille ou mis le manque à l'extérieur de moi, et donc je peux rester comme je suis. Et donc c'est voilà, c'est là-bas que ça se passe, c'est pas chez moi. Et donc ça c'est très important de pouvoir s'en rendre compte. Et puis lorsqu'on estime que les autres ben, sont supérieurs à nous, parce que ça arrive aussi, hein, je veux dire, quelque part, c'est juger les autres dans le sens favorable, soi-disant, on a notre propre dévalorisation qui nous donne ce sentiment de sécurité. Et ça, c'est très intéressant de le voir. Moi, je sais que pour ma part, c'est ça qui s'est passé. Je me dévalorisais. Et cette dévalorisation en disant bah, ils sont tellement meilleurs que moi, de toute façon ils sont pour faire, hein, donc je laisse la responsabilité à autrui, j'ai pas besoin de faire, j'ai pas besoin d'entreprendre, et du coup bah, je peux procrastiner hein, parce que voilà, quelqu'un d'autre est responsable, voilà, et du coup ça me met dans une impression, un sentiment que les autres sont supérieurs, donc moi j'ai pas besoin de faire, et c'est autour de ça que je vais créer ce sentiment de sécurité. D'un moi construit, figé, voilà. Ils sont tellement meilleurs que moi que ça nous donne la permission, si vous voulez, de ne pas entreprendre. C'est fascinant tout ça. Donc après, ce qui se passe, c'est que bah, y a quand même une insatisfaction interne, donc de là peut provenir la jalousie ou l'envie ou le sentiment, quelque part, après coup, de sentir une victime. Je suis victime de cette position que j'ai prise. Je suis victime de la position de dire, oh, mais j'entreprends jamais. Puis les autres, ils font. Et puis du coup, ben voilà, ils ont tellement plus que moi. Et puis je me dis, ben, c'est pas juste. C'est génial. Dire, mais attends, j'ai mis tout ça en place. Et puis après, je me dis, non, mais c'est pas juste en fait. C'est génial de pouvoir voir combien tout ça se construit. Il y a beaucoup de couches là, hein. Il y a beaucoup de couches. Donc vous voyez que tout ça peut s'entrevoir, amener à la lumière de la conscience. C'est extraordinaire, tous ces niveaux, toutes ces couches de narration qu'on peut se raconter, se dire, écouter, et qui sont teintées de négativité, qui sont teintées de saisie, qui sont teintées d'attachement, et qui font que quelque part, waouh, c'est une substance tellement riche à explorer. La plupart du temps, ça se joue, mais on n'en a pas conscience. Et alors, donc, voilà que on peut ici avoir, en tout cas, encore quelques jours d'espace pour pouvoir découvrir ce genre de pensée et voir si c'est à l'œuvre. Naturellement, de nouveau, tout est impermanent et c'est des petits moments où tout à coup ça apparaît dans le réfectoire. On l'a tous dit, hein, je crois, que c'est un lieu absolument génial pour voir comment on est positionné par rapport à autrui, par rapport à soi, par rapport, enfin j'entends, c'est absolument génial de voir que je peux donner une réalité à un fait tout à fait banal et m'enfermer là-dedans. Donc il ne s'agit pas du tout de nier que ça n'existe pas, mais en même temps ne pas s'enfermer, ni l'un ni l'autre. Donc une vision déformée, une vision erronée, une vision qui fait qu'on voit les choses de façon partielle. Et à partir de là, eh bien, quand il y a ces pensées, il y a très rapidement cette division, vous voyez, cette dualité. Et dans cette dualité, dans cette perspective-là, on dit c'est bien, c'est mal. Je suis bien, je ne suis pas bien. Et donc on oppose. Et donc c'est ça qui fait qu'on est fragmenté, parce qu'on oppose le bien au mal. Et dans cette perspective-là, tout est exploré. C'est pas, ouh là là, faut pas explorer ça parce que c'est pas bien, ça me montre mes mauvais côtés. Non, on veut quelque part explorer ceci parce que ça nous constitue, suivant des mécanismes de conditionnement, des références, et puis on peut s'en libérer. Tout le sens, c'est la liberté. Il y a quelques années, j'ai vu un dessin, dans un dessin animé, il y avait un couple qui se disputait. Et puis il y en a un qui dit à l'autre, si la question de savoir qui a raison et qui a tort n'a pas d'importance, pourquoi n'aurais-je pas raison et toi tort? C'est totalement génial. Vous voyez comment c'est? Donc en restant dans soi-même, sentant son corps, à chaque fois qu'il y a une petite pensée qui est jugeante, pour moi en tout cas, il y a un impact sur le corps. Il y a quelque chose qui fait que ça crispe. Et il y a, pour certaines personnes, je crois, à se dire là, oulala, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un petit jugement qui est en train de se produire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit conflit intérieur? Et donc le corps peut à nouveau être vraiment un espace de lien, d'intimité et de contact pour percevoir ces schémas d'habitude, parce que c'est évident qu'on se dit, bon, ben, tout ça, c'est dans l'esprit. Oui, c'est vrai, ce sont des états mentaux, mais ils se déposent dans le corps. Donc, on peut ressentir aussi cette friction, si vous voulez, ou cette identification qui sont des pensées, dans une certaine mesure, ayant un impact sur le corps. Et dans ce cas-là, eh bien, c'est très, très bon et tellement utile de pouvoir ouvrir le champ, accueillir, laisser traverser ces expériences et puis avoir toute la qualité de la bienveillance ici tellement utile pour stopper la lutte et accueillir naturellement ces pensées, ces sentiments, ces impressions, peut-être c'est tout ce qui se passe au niveau, ça peut être complexe, mais dans un espace de fluidité. On peut très bien traverser de ceci et de sentir la fluidité qui va faire que ça coule aussi parce qu'on n'est pas dans la saisie. Donc il y a une désaisie qui peut se passer et avancer avec une certaine patience, acceptation et qui fait qu'on continue notre chemin tranquillement pour pouvoir transformer cet esprit qui est figé dans un esprit non figé. C'est vraiment ça, c'est plus de liberté, plus d'ouverture. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a tellement parlé de ça que c'est toujours le même processus en fait. Hein. D'accord. Le troisième patriarche Z, il dit « Si tu veux connaître la vérité, arrête simplement de chérir tes opinions et tes jugements. » Donc voilà, il ne s'agit pas de grand-chose, c'est arrêter de chérir nos opinions. Je vais terminer avec un petit texte, justement, aussi du Sutta-Nipata. J'ai ouvert l'enseignement avec le Sutta-Nipata, je vais le terminer avec le Sutta-Nipata. Le Bouddha aborde ce thème et il termine par une petite pique pleine d'humour à nouveau à l'égard de ceux qui s'accrochent aux opinions. Il dit « Voyant la misère qui réside dans les points de vue et les opinions, je n'en adopte aucune et trouve ainsi la paix intérieure et la liberté. Celui qui est libre ne s'accroche à aucun point de vue et ne se querelle pas pour une idée. Ça n'en vaut pas la peine. Pour le sage, il n'y a rien qui soit plus haut plus bas, ni égal, aucun endroit où l'esprit puisse s'accrocher. Mais ceux qui s'accrochent à des points de vue et des opinions ne font qu'errer à travers le monde en ennuyant les gens. Excellent, vous voyez ? On a même pu rire alors que le sujet était bien grave. Non, tout prendre avec légèreté, comme le disait un de mes maîtres, il faut être sérieux dans la méditation, sérieux dans son chemin, mais pas trop. Parce que si vous êtes trop sérieux, eh bien, vous perdez la direction. C'est-à-dire, trop sérieux, c'est vraiment quelque part, justement, cette saisie, hein, d'être trop sérieux, puis qui fait que, on s'agrippe au sentiment du moi. Donc, le prendre avec beaucoup de légèreté.